إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue la lecture des chapitres sur les règles de la prière du livre de l'imam al-Si'di rahimahullah ta'ala, Manhaj al-Salikin. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé Bab salat al-Tatawwu', chapitre sur les prières surérogatoires. Ce qui est surérogatoire, c'est ce qui est fait en plus. Et cela désigne ici toutes les prières qui ont été légiférées en plus des prières obligatoires. Et on les appelle aussi en arabe al-nawafil, qui est le pluriel du mot nafila. Et les prières surérogatoires, elles comportent de nombreux mérites. Parmi ces mérites, premièrement, il y a le fait qu'elles vont venir compléter les manquements que tu as pu avoir dans tes prières obligatoires. En effet, nul parmi nous n'est à l'abri des manquements dans ses prières. Et personne ne peut prétendre les accomplir à la perfection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa sagesse, il a légiféré pour nous des autres prières, en plus des prières obligatoires, qui vont nous permettre de compenser et combler les manquements que nous avons pu avoir dans nos prières obligatoires. En effet, il est venu dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la première chose sur laquelle les gens seront jugés au jour de la résurrection, c'est la prière. Et s'il y a des manquements en celle-ci, Allah subhanahu wa ta'ala dira alors « Regardez si mon serviteur a des prières surérogatoires. » Et s'il a des prières surérogatoires, c'est-à-dire s'il avait accompli des prières surérogatoires, alors il dira « Complétez pour mon serviteur ses prières obligatoires par ses prières surérogatoires. » Et il en sera ainsi pour l'ensemble des œuvres. Également parmi les mérites des prières surérogatoires, il y a le fait que ces prières, elles comprennent cette position durant laquelle tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la prosternation. Et le fait de multiplier les prosternations, c'est une cause pour être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. En effet, il est rapporté de Rabi'a ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit avoir passé une nuit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a alors amené de l'eau pour qu'il fasse ses ablutions, ainsi que ses besoins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « Demande ». Et en raison du fait qu'il lui a amené l'eau pour ses ablutions, il lui a dit « Demande, adresse-moi une demande ». Alors Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu a dit « Je te demande ta compagnie au paradis ». On voit à travers cela quelles étaient les ambitions des compagnons radiyallahu ta'ala anhu. Il n'a pas demandé une chose de ce bas monde, mais il a demandé la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « As-tu autre chose à demander ?» Il répondit « Non, c'est cela qu'il veut ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Alors aide-moi contre ta propre personne en multipliant les prosternations ». Également parmi les mérites de la prière, et plus particulièrement de cette prosternation, il y a le fait que la multiplier est une cause pour t'élever en degré et pardonner tes péchés. En effet, il a été rapporté de Thauban radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'œuvre la plus aimée d'Allah, et qui lui répondit sallallahu alayhi wa sallam « Multiplie les prosternations pour Allah, car tu ne fais pas une seule prosternation sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'élève en degré par celle-ci et ne t'efface de tes péchés. » Les prières surérogatoires sont donc une cause pour que tu sois élevé en degré au paradis et que tes péchés soient effacés. Également parmi leurs mérites, et ceci est un mérite immense, il y a le fait que les prières surérogatoires, ainsi que l'ensemble des œuvres surérogatoires, qui sont accomplies après t'être acquittées de tes obligations, elles sont une cause te permettant d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il est venu dans le hadith al-Qudsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction des sens rapprochés, « Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les nawafil, par les actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. C'est-à-dire que ces actes surrogatoires qui sont accomplis en plus de tes obligations, ils te permettent d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que ceci est le plus noble des objectifs. Donc les prières surrogatoires, elles sont de différentes sortes. D'un point de vue général, on pourrait les diviser en deux catégories. Il y a des prières surrogatoires qui sont mutlaqa. Mutlaqa, cela veut dire qu'elles sont légiférées de manière absolue, sans être liées à un temps ou à une cause. Et ça, c'est toute prière surrogatoire que tu peux faire sans que celle-ci ne soit liée à un moment précis ou à une cause précise. Le deuxième type de prière surrogatoire, c'est celles qui sont muqayyada. C'est celles qui sont restreintes à un temps ou à une cause. À l'exemple des rawatib, qui sont restreintes au temps des prières obligatoires et qui sont liées à celles-ci. Également, la prière de nuit, qui est accomplie durant la nuit. Également, la prière d'ad-duha, la prière de la matinée. Également, la prière surrogatoire accomplie après les ablutions. Elle est liée à cette cause, le fait que tu aies fait les ablutions. Et ainsi de suite, parmi les prières surrogatoires. Et le shir, rahimahullah ta'ala, nous en a cité ici trois. La prière de l'éclipse, la prière du witr et la prière de demande de pluie. Et là donc dit, rahimahullah, wa akaduha salatul kusuf. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. Il dit la plus confirmée, c'est-à-dire celle dont la recommandation est la plus confirmée parmi les prières surrogatoires. C'est la prière de l'éclipse. Et ce, car le prophète صلى الله عليه وسلم l'a faite et l'a ordonnée. La prière de l'éclipse, c'est celle qui est légiférée au moment d'une éclipse solaire ou d'une éclipse lunaire. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à ce sujet, dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Ils ne s'éclipsent ni pour la mort de quelqu'un, ni pour sa naissance. Si vous voyez cela, alors invoquez Allah, faites le takbir, priez et faites l'aumône. On voit donc dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire quatre choses lorsque survient une éclipse. Premièrement, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le takbir. Troisièmement, la prière. Et quatrièmement, l'aumône. Ceux-ci sont donc les actes qui sont légiférés lors d'une éclipse. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith authentique, lorsque vous voyez quelque chose de cela, c'est-à-dire une éclipse, alors priez jusqu'à ce qu'elle termine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc ordonner cette prière. C'est pour cela que le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que c'est celle dont la recommandation est la plus confirmée parmi les prières surrogatoires. D'ailleurs, certains parmi les gens de science ont même dit que cette prière est une obligation en raison du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a faite et l'a ordonnée, comme vous l'avez entendu dans les hadiths. Ensuite, il dit rahimahullah wa tusalla ala sifati hadithi Aisha radiyallahu ta'ala anha. أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه. Et celle-ci est accomplie à la manière décrite dans le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a récité à voix haute durant la prière de l'éclipse et qu'il a accompli quatre inclinations dans deux unités, c'est-à-dire que chaque unité comprenait deux inclinations et quatre prosternations, comme dans toutes les autres prières. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc cette prière, elle est légiférée au moment de l'éclipse, à partir du début de l'éclipse et ce, jusqu'à sa fin. Et si la prière termine avant la fin de l'éclipse, alors elle ne doit pas être recommencée. Mais il est légiféré à ce moment-là de multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que l'invocation ou l'aumône. Et cette prière, elle s'accomplit d'une manière particulière, qui est différente des autres prières. En effet, comme vous l'avez entendu, dans chaque unité, elle comporte deux inclinations. Aïcha radiyallahu ta'ala anha nous dit qu'alors qu'il y a eu une éclipse solaire du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti à la mosquée, et les gens se sont mis en rang derrière lui. On voit donc à travers cela que cette prière, il est légiféré de la faire en groupe à la mosquée. Il a fait le takbir de sacralisation pour entrer en prière. Puis, il a récité, sallallahu alayhi wa sallam, d'une longue récitation. C'est-à-dire qu'après la Fatiha, Il a récité longuement le Coran. Puis il a fait le takbir et s'est incliné d'une longue inclination. Puis il a dit « Sami Allahu liman hamida ». Il s'est relevé de l'inclination. Et à ce moment-là, après s'être remis debout, il ne s'est pas prosterné comme on le fait habituellement dans les autres prières. Mais il a recommencé la récitation du Coran. C'est-à-dire qu'il a récité à nouveau la Fatiha. Et il a récité longuement le Coran après celle-ci, d'une récitation un peu moins longue que durant la première. Puis il a fait le takbir et s'est à nouveau incliné, une deuxième inclination dans la même unité. Et cette inclination était un peu moins longue que la première. Puis après cette deuxième inclination, il s'est relevé, il a dit « Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd ». Et après, il s'est prosterné. Et il a accompli la deuxième unité de la même manière. Il a donc fait deux unités avec quatre inclinations et quatre prosternations. C'est-à-dire deux inclinations et deux prosternations dans chacune des unités de prière. Telle est la manière d'accomplir la prière de l'éclipse. Et comme on a dit, celle-ci, elle est légiférée en groupe à la mosquée, mais elle peut aussi être accomplie seule à son domicile. Et il n'y a pas de gêne en cela, Inch'Allah ta'ala, d'autant plus si elle n'est pas accomplie à la mosquée. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit « Wa salatul witr sunnatun mu'akkada » Et la prière du witr est une sunna confirmée. C'est-à-dire que c'est une sunna fortement recommandée. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, « Certes, Allah est witr, il est unique, subhanahu wa ta'ala, et il aime le witr. Il est unique, subhanahu wa ta'ala, et il aime le witr. » Ceci nous prouve que cette prière est fortement recommandée car elle est aimée par Allah, subhanahu wa ta'ala. D'autant plus que le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit, « Dawama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam alayhi hadaran wa safara » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assidu à celle-ci, qu'il soit résident ou en voyage. C'est-à-dire que même lorsqu'il était en voyage, il faisait tout de même la prière du witr sallallahu alayhi wa sallam. Wa hatha an-nas alayhi, et il a encouragé les gens de faire cette prière, comme on l'a vu dans le hadith. Également, il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith rapporté par Abu Dawud al-Tirmidhi rahimahumallahu ta'ala, certes Allah vous a ajouté une prière qui est meilleure pour vous que des chamourous. Les chamourous qui étaient une des plus grandes richesses à leur époque, un des biens les plus précieux. Certes Allah vous a ajouté une prière qui est meilleure pour vous que des chamourous, la prière du witr. Et cette prière, elle fait partie des prières de nuit, celle au sujet desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, la meilleure des prières après la prière obligatoire est la prière de nuit. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, « وَأَقَلُّهُ رَكْعَ وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَ » Le minimum, c'est-à-dire le minimum du witr, c'est que tu fasses une unité, et le maximum est 11 unités. En effet, Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le witr est une unité accomplie en fin de nuit. » Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala. Et les imams al-Bukhari et muslim, rahimahumallahu ta'ala, ont rapporté de Aïcha radiyallahu ta'ala anha qu'elle a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas plus de 11 unités, que ce soit durant le mois de Ramadan ou durant les autres mois. » C'est-à-dire pour la prière de nuit. On voit donc que le minimum est une unité et le maximum 11 unités. Et elle peut être accomplie de différentes manières. Il est possible d'accomplir ces 11 unités en les faisant deux par deux, puis de clôturer avec une unité. Également, il est possible de faire le witr en trois unités, en faisant une prière de deux unités et en la faisant suivre d'une prière d'une unité. Ou alors en faisant trois unités d'un seul coup, avec un seul tashahhud à la fin. Et également, il est permis de la faire en 5 ou 7 unités d'un seul coup avec un seul tashahhud. C'est-à-dire que tu fais 5 unités ou 7 unités en faisant seulement le tashahhud et les salutations à la dernière unité. Et il y a également d'autres manières qui sont légiférées. Et pour plus de détails à ce sujet, je vous renvoie à un cours que l'on avait fait avant le mois de Ramadan concernant les règles de la prière de nuit, dans lequel on a mentionné les différentes manières d'accomplir le witr. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit « Wa waqtuhu min salati al-isha ila tulu' al-fajr » Et son temps, le temps de la prière de witr, et de la prière d'Al-Isha jusqu'au lever de l'aube. En effet, dans le hadith rapporté par Abu Dawud et Tirmidhi rahimahumallah ta'ala, que l'on a mentionné tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah vous a ajouté une prière qui est meilleure pour vous que des chamourous, c'est la prière de Witr, et elle a lieu entre la prière d'Al-Isha et le lever de l'aube. » Ceci est le créneau horaire durant lequel tu peux accomplir la prière de Witr. Et le mieux est de l'accomplir en fin de nuit pour celui qui sait qu'il va se lever avant l'aube pour celle-ci, comme on va le voir dans le hadith, incha'Allah ta'ala. Puis le shir, rahimahullah ta'ala, a dit « Wal-afdal an yakuna akhira salatihi » Et le mieux est que ce soit sa dernière prière, c'est-à-dire qu'après le witr, tu ne fais plus de prière. Ceci est ce qui est préférable. Toutefois, si une personne a fait le witr, par exemple en début de nuit, en pensant qu'elle n'allait pas se lever avant le fajr, puis qu'elle se lève avant le fajr et qu'il lui reste du temps pour prier. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à accomplir des prières surrogatoires sans refaire le witr. On se contente du witr que l'on a accompli en début de nuit, et on accomplit seulement des unités surrogatoires deux par deux. Ensuite, le shir rahimahullah ta'ala a dit « Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam « Ij'alu akhira salatikum bil-layli witra muttafaqun alayhi » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites que la dernière de vos prières la nuit soit le witr, qu'elle soit impaire, en une, en trois, en cinq ou en sept, comme on l'a mentionné, jusqu'à 11 unités. » Ensuite, il a dit, rahimahullah, « Waqal, yani al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, « Man khafa an la yakouma min akhiri al-layl, falyutir awwalahu, wa man tamia an yakouma akhirahu, falyutir akhir al-layl, fa inna salata akhiri al-layl, mashhuda, wa dhalika afdal. » Rawahu Muslim. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a peur de ne pas se lever en fin de nuit, alors qu'il prie à son début, au début de la nuit. Si tu sais que tu ne vas pas arriver à te lever avant le fajr pour faire le witr, alors le mieux pour toi est d'accomplir le witr en début de nuit, après salat al-isha, avant de dormir. Ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui espère se lever en fin de nuit, celui qui pense qu'il va pouvoir se lever en fin de nuit, alors qu'il fasse le witr en fin de nuit. Car certes, la prière à la fin de la nuit a des témoins, et ceci est meilleur. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. On voit donc à travers ce hadith que le plus méritoire concernant la prière du witr est de l'accomplir en fin de nuit. Et ce car en fin de nuit, c'est le moment de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il descend au ciel le plus proche et qu'il dit à ses serviteurs « Est-il quelqu'un pour me demander afin que je lui accorde ce qu'il demande ? Y a-t-il quelqu'un pour implorer mon pardon afin que je lui pardonne ?» Donc ceci est un moment très méritoire. C'est pour cela qu'il est préférable d'accomplir cette prière à ce moment-là. Toutefois, si tu sais de ta personne que tu es fatigué ou que tu vas avoir du mal à te lever, et que tu ne vas pas réussir à être réveillé à ce moment-là, mais que tu ne vas te réveiller que pour le fajr, alors le mieux dans ce cas-là est que tu fasses le witr en début de nuit. Et cela également est légiféré, afin de ne pas perdre le mérite de cette prière. Et si une personne a pour habitude de se lever la nuit pour prier, et qu'un jour, elle manque la prière du witr, alors elle peut être rattrapée durant la matinée, durant le temps de la prière d'ad-duha. Si tu as l'habitude de prier la nuit 3 unités, tu prieras alors durant la matinée 4 unités, en faisant 2 et 2. Si tu as l'habitude de prier la nuit 5 unités, tu prieras alors le matin 6 unités pour les rattraper. Si tu as l'habitude de faire 11 unités, tu prieras alors durant la matinée 12 unités, afin de rattraper cette prière de nuit, comme cela est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, a dit, « Wa salatu l'istisqa » Et la prière de demande de pluie est une sunna si les gens y sont contraints en raison de l'absence d'eau. Donc en temps de sécheresse, lorsqu'il ne pleut pas, que les puits sont vides, que la terre s'assèche, que les plantations ne poussent pas, il est légiféré pour les musulmans d'accomplir une prière appelée salat ul istisqa, la prière de demande de pluie. Le shir rahimahullah ta'ala nous dit وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. Et elle est accomplie comme la prière de l'Aïd, comme la prière de la fête, dans un endroit désertique, c'est-à-dire à l'extérieur de la ville. Et si elle ne peut pas être accomplie dans un endroit désertique, et qu'elle est accomplie dans la mosquée, il n'y a pas de jeûne, inshallah ta'ala. Donc son temps et la manière de l'accomplir sont semblables à ce qui est légiféré pour la prière de l'Aïd. En effet, Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a prié deux unités comme il le fait lors de la prière des deux fêtes. Donc on fait deux unités comme pour la prière de l'Aïd, on récite dans ces deux unités la même chose que l'on récite dans la prière de l'Aïd, on fait dans ces deux unités les takbirs supplémentaires comme pour la prière de l'Aïd, et on fait la khutba après la prière de la demande de pluie comme pour le jour de l'Aïd. Car comme on va le voir, il y a une khutba qui est légiférée après la prière de demande de pluie. Il dit, rahimahullah, ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا. Et il sort pour celle-ci, il s'y rend à la prière de demande de pluie, en faisant preuve d'humilité, d'avilissement et de soumission. En effet, la demande de pluie, elle est nécessaire en temps de sécheresse. Si Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs par la sécheresse, l'absence de pluie, tout comme toute calamité qui nous atteint ici-bas, cela est dû à nos péchés. Il est donc nécessaire que les serviteurs se rendent à cette prière en faisant preuve d'humilité et d'avilissement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le rapporte Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti en faisant preuve d'humilité, d'avilissement et de soumission jusqu'à arriver au lieu de prière. Ensuite il a dit, rahimahullah, fayusalli rak'atayn. Une fois arrivé au lieu de prière, il fait deux unités. ثم يخطب خطبة واحدة. Ensuite, il fait un sermon, un seul sermon, comme cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. Et dans ce sermon, il multiplie l'imploration de la demande du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il multiplie la lecture des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'implorer son pardon. À l'exemple des versets 10 et 11 de Sourate Nuh, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de Nuh alayhi salam, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est le grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans Surat Hud au verset 52, wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilay yursilis samaa'a 'alaykum midrara. Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui, il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Ainsi que d'autres versets semblables dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'implorer son pardon. Et le shir rahimahullah ta'ala nous dit « وَيُلِحُّ فِي الدُّعَى » et il insiste dans l'invocation. En effet, Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ce sermon, il ne cessait d'invoquer et de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. « وَلَا يَسْتَبْطِهُ الْإِجَابَ » et il ne s'impatiente pas d'être exaucé. En effet, il se peut que la personne fasse des invocations parfois et s'impatiente de ne pas voir le résultat de cette invocation ici-bas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ta'ala, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, l'un d'entre vous ne cesse d'être exaucé tant qu'il ne s'empresse pas, tant qu'il ne s'impatiente pas, et qu'il dise, j'ai invoqué et on ne m'a pas exaucé. Lorsque la personne dit cela, elle se prive elle-même de l'exaucement de son invocation. Car les textes nous démontrent que la réponse à l'invocation, elle peut avoir lieu de différentes manières. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ton invocation en les termes que tu l'as demandé, mais il se peut aussi que cette invocation, elle soit une cause pour te préserver d'un mal qui allait t'atteindre. Et il se peut également qu'Allah subhanahu wa ta'ala te la conserve pour un moment où tu en auras grand besoin, qui est le jour de la résurrection. Donc ce n'est pas parce que tu ne vois pas ton invocation exaucée en ces termes Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas exaucé, car il exauce nos invocations de différentes manières. Tu ne dois donc pas t'empresser, ne pas être impatient. Car si tu t'impatientes, alors tu ne seras pas exaucé, tu seras privé de l'exaucement de ton invocation. Donc il en est de même concernant la demande de pluie. Si les musulmans sont touchés par la sécheresse, ils ne doivent pas s'impatienter et persister dans l'invocation. Sans cesse implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander de faire tomber la pluie. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَيَنْبَغِي قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَيْهَا فِعْلُ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَدْفَعُ الشَّرَّ وَتُنْزِلُ الرَّحْمَةَ. Il dit, il convient, avant de s'y rendre, avant de se rendre à la prière de demande de pluie, de faire les causes qui repoussent le mal et font descendre la miséricorde. Et quelles sont ces choses qui repoussent le mal et font descendre la miséricorde? Le Shir, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il y a l'istighfar, wa tawba, wa al-khuruj min al-madhalim, wa al-ihsan ila al-khalq. Il dit, rahimahullah, à l'exemple de l'imploration du pardon d'Allah, du repentir, du fait de réparer les torts ou les injustices causées, et d'être bienfaisant envers les créatures. Wa ghayriha min al-asbab allati ja'alaha Allahu jalibatan lir-rahma dafi'atan lin-niqma. Et autres parmi les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait des causes pour faire venir la miséricorde et repousser les épreuves. Wallahu a'lam. Et Allah sait mieux. Donc la sécheresse, l'absence de pluie, ainsi que toute autre calamité qui peut nous atteindre, elles sont la cause de nos péchés, de notre manque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre manque de piété. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. La corruption est apparue sur terre et en mer en raison de ce que les mains des gens ont commis. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Et aucun mal ne vous atteint si ce n'est en raison de ce que vos mains ont commis. Donc tout mal qui nous atteint, il est dû à nos péchés, à nos mauvaises actions, à nos manquements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on souhaite faire descendre la miséricorde, si on souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sa miséricorde et qu'il repousse les malheurs, nous devons faire des causes pour cela. Et parmi les causes, il y a l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Médite sur la suite du verset de Sourate Nuh, dans lequel Nuh alayhi salam ordonne à son peuple d'implorer le pardon d'Allah. Il leur dit ensuite, Yursilis sama alaykum midarar. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il dit? وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Et il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Et il vous donnera des jardins et il vous donnera des rivières. C'est-à-dire que l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala est la cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde les biens d'ici-bas et les biens de l'au-delà. Et celle-ci, elle est accompagnée du repentir, que tu te repentes de tes péchés, que tu les regrettes, que tu les délaisses totalement. Et que tu aies la ferme intention de ne plus y retourner. Le Shir, rahimahullah ta'ala, nous dit aussi, réparer les torts causés. Si tu as été injuste envers quelqu'un, que tu l'as opprimé, que tu l'as volé, que tu lui as causé du tort, tu répares ces torts causés. Ceci également fait partie du repentir, et cela permet, bi'idhnillahi ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sa miséricorde. Et il dit à la bienfaisance envers les créatures. Car tout ceci entre dans la généralité de la piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 96 de Sourate Al-A'raf, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont démenti. Et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient commis. Également dans un hadith authentique, rapporté par Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sermonné ses compagnons et les a informés au sujet de cinq choses, au sujet desquelles il a cherché refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas qu'elles les atteignent. Et parmi ces choses, il a mentionné, et aucun peuple ne refuse de verser la zakat de ses biens, c'est-à-dire la zakat obligatoire, sans qu'on les prive de la pluie du ciel. C'est-à-dire que le refus de donner la zakat, c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala prive ces gens de la pluie. De la même manière qu'eux, ils ont privé les pauvres de leurs aumônes, alors Allah subhanahu wa ta'ala les prive de la pluie. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et si ce n'était des animaux, il n'aurait pas eu de pluie. C'est-à-dire que la pluie qui descend dans cette situation, c'est par miséricorde envers les bêtes qui ne sont pas coupables des péchés des hommes. On voit donc l'importance pour les musulmans de faire les causes pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, implorer son pardon, se repentir de nos péchés, faire preuve de piété, se soumettre à ses ordres, délaisser ses interdits, et ce, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sa miséricorde et repousse les calamités. On parle ici de la descente de la pluie, mais entre également dans cela le fait de repousser l'ensemble des calamités qui peuvent toucher la communauté, comme ce que nous vivons actuellement avec cette épidémie qui est toujours présente. Ceci est un rappel pour nous et doit nous pousser à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, en multipliant les œuvres de bien, implorer son pardon, nous repentir de nos péchés, et ainsi de suite parmi les choses que l'on a mentionnées. Donc ceci sont les trois prières que le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionnées parmi les prières surérogatoires. Et il y a d'autres prières qui sont légiférées, comme par exemple les rawatib, dont on a déjà parlé dans le chapitre sur la description de la prière, et ce qui est légiféré à faire après celle-ci. Ces 12 unités qui sont la cause pour te voir construire une maison au paradis. Également, parmi les prières surérogatoires, il y a la prière d'Al-Duha, celle qui a lieu durant la matinée, et son temps est environ une vingtaine de minutes après le shuruq, jusqu'à avant le dhohr, une dizaine de minutes avant le dhohr, approximativement. Également, il y a la sunna des ablutions. Après que tu aies fait les ablutions, il est légiféré de faire 2 unités. Également, il y a le fait d'accomplir 2 unités entre chaque adhan et iqama. Et ainsi de suite parmi les prières surérogatoires qui sont légiférées. Et j'ai donné un cours durant le mois de Ramadan sur ces différentes prières ainsi que leurs mérites. Vous pouvez le retrouver sur le site dans la série de cours intitulée Les provisions utiles à l'adorateur. Il y a dans cette série un cours sur les prières surérogatoires ainsi que leurs mérites. Donc après cela, étant donné que le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné ces prières qui sont surérogatoires, il était nécessaire pour nous de savoir qu'il y a certains moments durant lesquels les prières surérogatoires ne sont pas permises. Il a donc dit وَأَوْقَاتُ النَّهِي عَنِ النَّوَافِلِ et les moments d'interdiction des prières surérogatoires al-mutlaqa. Mais dites bien sur la parole du cheikh ici, il n'a pas dit que toute prière surérogatoire était interdite durant ces moments, mais les nawafil al-mutlaqa, c'est-à-dire les nawafil qui sont faites sans aucune cause, celles qui ne sont pas liées à un temps ou à un événement. C'est celles-là qui sont interdites durant ces moments que l'on va citer. Quant à celles qui sont liées à une cause, alors elles peuvent être accomplies à tout moment, si la cause est présente. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit: Min al-fajr ila an tartafi' ash-shamsu qayd ar-rumh. De l'aube jusqu'à ce que le soleil se lève de la distance d'une lance, c'est-à-dire approximativement une quinzaine ou une vingtaine de minutes après le shuruq, après le lever complet du soleil. Donc ceci est le premier moment durant lequel les nawafil al-mutlaqa, elles ne sont pas légiférées. Il est interdit de prier à ce moment-là une prière surérogatoire sans raison. Si par exemple une personne, après le fajr, elle souhaite multiplier les prières surérogatoires, alors nous lui dirons que ceci n'est pas légiféré car ce moment est un moment durant lequel les prières surérogatoires al-mutlaqa, celles qui ne sont pas liées à une cause, un événement ou un temps, elles ne sont pas permises. Par contre, si une personne arrive à la mosquée au moment de la prière en commun et qu'elle n'a pas fait la prière surérogatoire qui précède la prière du Fajr, elle va donc prier avec le groupe la prière obligatoire et après cela, si elle le souhaite, elle pourra rattraper la prière surérogatoire du Fajr qu'elle a manquée. Et le mieux sera d'attendre après le Shuruq. Mais si elle a besoin de la rattraper à ce moment-là, alors cela est légiféré, il n'y a pas de gêne car c'est une prière qui a une cause. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa min salatil asri ila al ghuroub, de la prière d'al asr jusqu'au coucher du soleil. Donc après la prière de l'asr, il est interdit de faire ces prières que l'on appelle les nawafil al-mutlaqa. Si quelqu'un voudrait accomplir une prière surérogatoire sans raison, nous lui dirons alors qu'il n'est pas permis de le faire durant ce moment. Mais si une personne, par exemple, entre à la mosquée avant le maghreb, avant le coucher du soleil, peut-elle ou non faire la prière de salutation de la mosquée? La réponse est que cela est légiféré. Car à ce moment-là, tu n'auras pas visé ce temps-là précisément. Mais tu accomplis cette prière car tu es entré dans la mosquée. Il y a donc une cause qui légitime cette prière. Et il n'y a pas de gêne en cela. Toutefois, si tu sais que cela peut engendrer des discordes et des dissensions au sein de d'une mosquée particulière, alors il n'y a pas de gêne à attendre l'appel à la prière pour entrer dans la mosquée, et ce, afin d'éviter de semer la discorde au sein de cette mosquée. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa min qiyam ash-shamsi fi kabid as-sama ila an tazul. Et lorsque le soleil est à son point culminant dans le ciel, jusqu'à ce qu'il redescende, c'est-à-dire au moment du zénith. Lorsque le soleil est à son point culminant, à ce moment-là, il est interdit de prier. Et cela représente approximativement une dizaine de minutes avant l'heure du dhuhr. Et ceci, bien sûr, n'est qu'approximatif. Ces trois moments-là sont les trois moments durant lesquels il est interdit de prier. Et si vous méditez sur cela, vous verrez que chacun d'entre eux sont liés au soleil. Le lever du soleil, son coucher, et lorsqu'il se trouve à son point culminant. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier à ce moment afin de ne pas s'assimiler aux polythéistes qui se prosternaient en ces moments pour le soleil. C'est pour cela qu'il est interdit de prier en ces heures. Ensuite, le shir rahimahullah ta'ala termine et dit Wallahu a'lam, et Allah sait mieux. Donc ces trois temps sont les trois temps durant lesquels il n'est pas permis d'accomplir des prières surérogatoires sans raison. Mais s'il y a une cause que tu ne le fais pas volontairement en ce temps, mais par exemple tu as l'habitude de faire deux unités systématiquement après tes ablutions. Alors, si tu fais les ablutions après la prière de l'Asr, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne à ce que tu accomplisses ces deux unités, car elles ont une cause. La cause, c'est que tu viens de faire tes ablutions. Toutefois, s'il ne reste que un court instant avant le coucher du soleil, que cela approche le maghreb, alors il n'y a pas de gêne à ce que tu attendes un petit peu afin de pouvoir faire cette prière. Ceci était donc quelques questions liées aux prières surérogatoires et nous verrons dans le prochain cours, inshallah ta'ala, le chapitre suivant concernant la prière en commun et les règles liées à l'imamah. On va donc s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم